RMC, la boîte à souvenirs,
David Douillet.
Bonjour à tous, je m'appelle David Douillet, j'ai 51 ans. Et pour ceux qui n'étaient pas encore nés dans les années 2000, eh bien, j'ai été un judoka, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai eu cette chance d'être champion olympique deux fois, d'être quatre fois champion du monde. J'ai aussi été ministre des Sports, ça n'a pas toujours été très facile. J'ai connu des hauts, des bas, des difficultés, mais je me suis toujours relevé. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes, donc vous l'avez compris, avec David Douillet. Salut David.
Bonjour.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, des moments difficiles évidemment, le champion que tu étais, le papa et l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Question traditionnelle avant de débuter cette boîte à souvenirs, comment tu te sens David ?
Bah bien, un peu inquiet malgré tout, parce que je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Parce que les souvenirs, c'est pas évident. Hein, ils peuvent être interprétés, interprétables. Quelquefois, ce qui peut sembler être un bon souvenir peut ne pas l'être. Maintenant, je sais que vous avez fait du bon boulot et je suis en confiance.
Très bien, tu peux l'être en confiance. Voici le premier papier avec toi, David, dans cette boîte à souvenirs.
Alors, je veux être champion du monde.
Je veux être champion du monde. C'est une citation de quelqu'un, ça. De qui ?
Je l'ai dit un jour.
Alors tu as...
Ça fait prétentieux, donc c'est pas
facile. Non, on va l'expliquer. Ouais. Tu as 12-13 ans.
Ouais.
Et... Il y a deux déclics dans ta carrière. Tu es dans ce club de Châtel-en-Bray, c'est en Normandie. Et le premier déclic, c'est Fabien Canu, qui est alors un grand espoir du judo. Il a la vingtaine, hein. Il n'est pas encore le grand judoka, mais il fait déjà parler de lui. Qui vient à l'entraînement et qui te dit quelque chose, qui dit quelque chose à tous les élèves judoka. T'es minot, comment ça se passe ?
Bah, ça se passe très simplement. En fait, il est ami avec mon prof et Fabien vient de participer au championnat du monde universitaire. Qu'il vient de remporter. Donc en fait, il commence à rentrer dans le grand bain. Je crois qu'à l'époque, il venait d'intégrer l'Institut National des Sports, où les meilleurs judokas de France s'entraînent ensemble chaque jour pour former l'équipe de France et puis les grands championnats après. Et à l'issue de l'entraînement, on se met en rond autour de lui et puis il nous explique tout ça. Il nous explique sa vie, pourquoi, comment, ce qui l'a motivé. Et il a commencé à parler de ses voyages, de ses projets, de ses objectifs. Et là, moi, j'ai accroché très, très fort.
Tu as accroché très fort à son discours. D'ailleurs, ça t'a donné envie de poursuivre et d'en faire ta carrière. Fabien Canu, c'est le premier invité, la première surprise de cette émission. Il se rappelle évidemment de ce moment.
C'était dans une vieille salle de judo, une salle de classe, tout en bois. Enfin, c'était vraiment le préfabriqué. Il fallait voir... là où David Douillet a démarré le judo. J'expliquais ce qu'était la vie d'athlète de haut niveau et surtout la chance qu'on avait à pouvoir voyager, à pouvoir rencontrer du monde, à découvrir la planète et que c'était, en termes d'éducation, extrêmement enrichissant. Donc voilà les propos que je tenais. Il y avait bien sûr la difficulté de s'entraîner, l'exigence du sport de haut niveau, mais aussi tous ces à côté qui font qu'on a une vie qui sort de l'ordinaire.
Ouais. Ça te plaisait, ça ?
Eh oui, moi, il m'ouvre les yeux, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu un premier coup de foudre qui est le judo, parce que voilà, c'était devenu une passion immédiate pour moi. Et puis j'avais là un deuxième coup de foudre que j'avais pas imaginé, j'avais pas conceptualisé, qui était celle de la vie d'un compétiteur. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est fabuleux, quoi. À l'époque, dans Pif Gadget, je regardais la vie de Dr Justice. Dr Justice voyageait dans le monde entier, il lui arrivait tout un tas d'histoires, etc. Et paf, le mimétisme était là, quoi.
Et tu pouvais, toi aussi, voyager comme Fabien Canu dans le monde entier. D'ailleurs, c'est ce que tu feras évidemment dans ta carrière. Et puis, après un entraînement, tu parlais de ton entraîneur qui a convié Fabien Canu, c'est Jacques Lemaître. Eh bien, ton entraîneur demande à tous les judokas qu'il a en face de lui, il demande quel est votre rêve.
Absolument. Absolument. Et alors, chacun dit un certain nombre de choses. Et moi, je dis, ouais, j'aimerais être champion du monde. Et là, ça a mis une espèce de froid. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était très prétentieux, en fait. Je me suis dit, mais c'est mon rêve, c'est un vrai rêve, quoi. Voilà, et comme tout rêve, ça nous paraît inaccessible, évidemment, à ce moment-là. Mais en fait, ça s'est inscrit comme une toile de fond dans tout ce que j'ai pu faire derrière. Sans vraiment oser le regarder de face, parce qu'effectivement, ça fait très... Voilà, très prétentieux, très... Et en même temps, chaque mouvement, chaque entraînement était orienté vers ça. Et sans vraiment le savoir au départ, sans en prendre vraiment conscience, mais au fur et à mesure du temps, ça s'est construit comme ça. Et c'était pour ça.
Tu es minot, tu commences à gagner, tu es repéré par le sport-études de Rennes. Rennes te veut absolument, il faut convaincre ta grand-mère, Mémé Blanche, on en reparlera un petit peu plus tard, qui t'a élevé. On va écouter Jacques Lemaître sur ce moment du départ de ton club, Neuchâtel-en-Bray, pour Rennes, le sport-études.
Il y avait une détection à l'époque, vraiment chez les lourds, il y avait très très peu de lourds. Et puis quand on voyait le gabarit de David, l'intelligence déjà du combat qu'il pouvait avoir... ce garçon-là avait un gros potentiel. Donc c'est vrai que moi, quand c'est comme ça, donc il a fallu d'abord convaincre, je pense qu'il a dû vous le dire, convaincre sa grand-mère, parce qu'il était chez sa mamie, chez Mémé Blanche, pour tout dire. Et Mémé Blanche ne comprenait pas pourquoi il devait quitter le club avec deux entraînements par semaine à Neuchâtel pour aller faire du judo à Rennes pendant toute la semaine, quoi.
Et oui, il faut la convaincre, parce que tu vas quitter Denis.
Oui, parce que ma grand-mère est née en 1923, personne dans ma famille ne pratiquait aucune discipline, aucun sport, donc voilà, culturellement c'était compliqué. Alors déjà avec son petit-fils, c'était déjà tombé fou amoureux d'une discipline sportive, le judo qui plus est, les entraînements, les compétitions, tout ça c'était nouveau pour elle aussi, et Dieu sait si elle a sacrifié son temps de vie, son temps personnel pour faire en sorte que ça se passe bien pour moi. Et alors là, sport-études pour elle, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est un club? C'est un nouveau club? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est loin? Rennes, c'est très loin. À l'époque, j'habitais dans la banlieue, enfin, quelques encablures entre Dieppe et Rouen. Donc, il fallait qu'elle m'emmène à la gare de Rouen. Et ensuite, j'avais 6 heures de train pour aller jusqu'à Rennes. Le TGV n'existait pas, etc. Sans jouer les anciens combattants, c'était un peu compliqué. Parce qu'il fallait une famille d'accueil là-bas pour les week-ends. Je revenais pas chaque week-end. Enfin, et pourtant, elle a su s'adapter, elle a su comprendre, elle a su avoir les idées ouvertes, elle a su être en réalité hyper moderne, ma grand-mère.
Il va y avoir une scène assez marrante devant le conseiller d'orientation.
Ah ouais.
Parce que il faut lui annoncer que tu vas quitter et que tu vas partir à Rennes pour tes études. Comment ça se passe avec ta grand-mère?
Ah ben, elle est convoquée, comme moi d'ailleurs, au lycée de Neufchâtel-en-Bray, j'étais en seconde. Et le conseiller d'orientation de l'époque lui dit, écoutez, je fais faire mon métier comme je le pense. C'est pas bon du tout que votre petit-fils parte en sport-études, quoi. Voilà. Il a un niveau qui est pas hyper élevé. Alors si vous rajoutez à cela des entraînements quotidiens 2 fois par jour, il est pas sûr qu'il puisse suivre. Il peut se mettre en situation d'échec scolaire. Et puis ensuite, c'est peut-être le judo, ça nourrit personne, quoi. Voilà. C'est pas possible, quoi. On n'en fait pas un métier. Bon, le type était visiblement pas un sportif, mais très charmant. Et surtout très franc, et ça, on peut pas lui retirer ça. Très direct aussi. Ma grand-mère l'a écouté, mais gentiment. Je me souviens, les jambes, son sac à main sur ses jambes, les mains croisées dessus, elle l'écoutait religieusement. Et elle a prononcé qu'une seule phrase. Une fois elle l'a laissé parler, très poliment. Il a balancé ses arguments pendant une dizaine de minutes. Et là, elle lui a dit. Donc il lui a dit, mais bon, on fait comment alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Pensant l'avoir convaincu. Elle fait, mais mon petit-fils, il fera ce qu'il voudra. Voilà. S'il a décidé d'aller en sport-études, et s'il pense que c'est bien pour lui, eh bien on va faire ça. Point.
Et tu es allé à Rennes
en sport-études. Mais scotché. Et ça l'a cloué. Il s'est tué, il est resté pantois comme ça. Elle s'est levée, on est parti, terminé. Et je suis allé à Rennes.
On peut dire que c'était un hippon, donc de bébé blanc.
Ah mais complètement.
Et un an plus tard, tu intègres le sport-études et un an plus tard, tu deviendras champion de France.
Exactement.
Cadet. Mais ça, on va y revenir. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec David Douillet sur RMC.
Eh bien David, il s'en passe des choses dans ta vie.
Ah, tu te souviens ou pas?
Ah non, qu'est-ce qui m'a dit ça? Il y a plein de gens qui m'ont dit ça.
Alors, je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Tu es d'ailleurs au sport-études de Rennes. On continue avec cette jeunesse. Tu as 16 ans, on est en 1986. Et avant de parler de cette phrase spécifique, Jean-Luc Rouget, qui est le premier judoka français champion du monde, vient assister à un entraînement à Rennes.
Ouais.
Et là, il flash sur toi. On l'écoute.
Il était dans le pôle d'entraînement de Rennes. Et puis, je vois un jeune qui avait l'air pas mal au sol, et puis au travail au sol. Et puis, le travail au sol, en général, c'est plutôt les adultes qui sont forts au sol, parce que, bon, c'est beaucoup plus technique. Et puis, je dis, tiens, je vais combattre avec lui, il a l'air fort. Et puis, donc, je combats avec lui, et puis c'était dur. Bon, moi, j'étais quand même champion du monde aussi, quoi. Et puis, j'étais pas trop vieux à ce moment-là. Et puis, je vais voir son entraîneur, et puis, mais c'est quoi cet engin? Et il me dit, et il est calé. Je dis, c'est pas possible.
C'est quoi cet engin?
Incroyable. Ouais, ça, c'est tout à fait. Ouais, je le vois très très bien se dire ça à ce moment-là. Ouais. C'est quoi ce temps-là? Je me souviens très très bien de ce randori. C'était pour moi. Bon, les cons, je faisais randori avec mon.
Randori, vous êtes au sol. Hein.
Un combat. Oui, c'est un combat d'entraînement, ça s'appelle. Je faisais un combat d'entraînement avec mon poster. Dans ma chambre, c'est compliqué. C'est pas évident quand on admire quelqu'un. Jean-Luc a été le premier champion du monde français, un athlète immense. D'ailleurs, il a dirigé de main de maître cette fédération jusqu'à maintenant. Il a donné toute sa vie au judo, voilà, c'est très clair. Et moi, à l'époque, d'être d'entre ses mains, j'étais très 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 impressionné. Mais je me suis pas laissé faire du tout. C'est vrai que j'ai donné le meilleur de moi-même, mais j'étais loin de m'imaginer qu'il puisse penser tout ça à ce moment-là. Voilà.
Oui, parce qu'il pense tellement de bien de toi après cette rencontre. D'ailleurs, 8 jours plus tard, tu vas gagner les championnats de France cadets, on en parlait il y a quelques instants. Tu vas retourner en classe.
Exactement.
Et durant un contrôle d'économie, il va se passer une belle histoire.
Oui, parce que, pour la petite histoire, on était, comment dirais-je, en sport-études, on était plein d'énergie. Quoi. Voilà, on était des jeunes adolescents. Bon, il se passait pas mal de choses. On faisait assez les cons, quoi, pour être très clair. On était tous internes, c'était très dur. Tous les jours, on en bavait sur le tatami. Plus les cours n'étaient pas aménagés, les horaires n'étaient pas aménagés. On en bavait. Bon, voilà, jeunesse passant, on faisait quelques bêtises au sein de l'établissement de temps en temps, mais rien de grave et c'était toujours bon enfant. Et là, je vois le proviseur débarquer pendant l'interro d'écho. Et je vois qu'il me regarde. Je vois qu'il est en train de parler à la prof d'écho, qui me regarde elle aussi, et avec insistance. Et là, dans ma tête, tout de suite, je me dis, ça y est.
Je suis mort.
Ça y est, je suis mort. Il y a encore une connerie de fait, et on va être convoqué, et une fois de plus, on va passer à la moulinette, etc. etc. D'autant que je n'avais rien à me reprocher, pour le coup, pour une fois. Et je ne voyais pas de ce qui pouvait se passer. Bon, je cherchais. Alors, ça a perturbé un petit peu mon interro, mais... Bon, bref, et puis je reste à ma place. Le proviseur s'avance jusqu'à moi. Pour que le proviseur vienne vous voir, c'est qu'il y a une grosse connerie, quoi. Qui parle à votre prof et que votre prof vienne vous voir après l'interro, bon,
c'est une
connerie
chose.
Moyenne. Mais que lui-même se déplace et qu'il vienne vous voir, grosse connerie. Et là, je le vois s'avancer. Je dis non, c'est pas moi. Je regarde derrière. Non, c'est pas moi. Si c'est moi, c'est moi. Monsieur Douillet, oui, monsieur le proviseur, oui. Passera à mon bureau ensuite. On a reçu un appel pour vous de Paris. Ah. Bon. OK. Alors là, Schwartz complet. J'étais complètement dans la... Et donc déjà, ouf, il n'y a pas de conneries. Deuxièmement, je suis passé à son bureau. Et là, je suis en face d'un proviseur qui se dit, voilà, je viens d'avoir en ligne Jean-Luc Rouget qui veut discuter avec vous parce qu'il a un projet à vous proposer. Quoi. En fait, Jean-Luc me demandait de...
Donc il appelle Jean-Luc devant vous?
Oui.
Enfin, devant toi?
Oui, il l'appelle. Et moi, je suis stupéfait. Je n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai Jean-Luc au téléphone qui me dit, voilà, je viens d'avoir ta grand-mère au téléphone. J'ai essayé de lui expliquer ce que j'envisageais pour toi parce que pour nous, tu es un potentiel très intéressant. Et on aimerait que tu viennes tout de suite à l'Institut National des Sports, à l'INSEP, à Paris. Que tu restes pas trop longtemps en sport-études, parce que tu auras besoin de partenaires, tu auras besoin de gens de beaucoup plus forts. Déjà, en étant cadet, c'est toi, déjà, tu es déjà le plus fort des seniors en poids lourd, donc ça peut être compliqué. Tu risques de stagner, on ne veut pas ça. Donc, ça serait important pour toi, même si ça peut être très dur au départ, que tu viennes à Paris. Et voilà, je suis dans la peau d'un petit rat dans une association de danse à qui on propose l'opéra. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe. Donc le rêve absolu, j'arrive devant les portes éventuellement de l'équipe de France. Voilà, c'est ça en fait ce que ça veut dire. Mais il a fallu que je convainque ma grand-mère, moi, à mon tour.
Exactement. Juste avant, pour dire que le proviseur va raccrocher cette discussion avec Jean-Luc Rouget, et c'est lui qui va te dire oui. « Eh bien David, il s'en passe des choses dans ta vie. »
C'est ça. Ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que ce n'était pas terminé. Ouais.
Alors il a fallu convaincre évidemment ta grand-mère, Blanche. Déjà, Jean-Luc Rouget, sur ce coup de fil, ce premier coup de fil à Mémé Blanche, voilà comment il en parle.
Ce que j'ai fait, je me suis débrouillé pour qu'il revienne à l'INSEP. Alors il était un peu jeune par rapport aux autres, je lui demandais de venir, lui était d'accord. Mais par contre, j'ai eu sa grand-mère au téléphone, et sa grand-mère qui me disait « Ah non, c'est quoi ce club concurrent de l'INSEP ? Moi, je veux pas, je veux qu'il est très bien, Rennes. »
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, la peau, il faut quand même la comprendre.
Eh oui.
Je passe d'un club, d'un vrai club, voilà, au sport-études. Alors, c'est pas un club, un sport-études, hein, c'est une organisation fédérale, voilà, c'est l'antichambre du haut niveau. Et ensuite, de l'INSEP. Alors, l'INSEP, elle était complètement paumée, elle pouvait pas comprendre qu'il y avait encore autre chose au-dessus d'un sport-études, effectivement, la situation des sports. Donc, il a fallu que je lui explique tout ça en long, en large et en détail. Mais encore une fois, elle m'a toujours fait confiance. C'est pas évident de faire confiance à un ado, hein, surtout un ado passionné. Et puis j'avais 15 ans à l'époque, je venais de partir de chez elle, elle se retrouvait toute seule. Enfin, elle m'a fait vraiment confiance. En réalité, quelquefois, en tout cas, ça a été mon cas, les grands-parents sont mille fois plus modernes que les parents, pour le coup.
Ouais, et ils laissent beaucoup plus faire et ils ont Exactement. Confiance tout de suite. Ils ont moins peur, ouais, peut-être aussi.
Ouais, ils sentent les choses un peu. Ils ont plus de recul, plus d'expérience. Donc en fait, au feeling, ils ont beaucoup plus de richesse que peut en avoir des parents.
Jacques Lemaître a aussi dû convaincre Mémé Blanche parce qu'il fallait vous y mettre à plusieurs, forcément. On l'écoute.
Il reçoit un courrier, la grand-mère me dit « Mais moi, je ne connais pas Jean-Luc Rouget. » Mais je dis « Écoute, Mémé, c'est le champion du monde, c'est le directeur de la fédération, etc. » Donc, s'il a repéré David, honnêtement, il ne faut pas le bloquer. Moi, je n'ai pas suffisamment de lourd pour lui permettre de progresser. Donc, ça serait vraiment un frein de le bloquer. Et puis, tu sais, tu le verras tous les samedis. Il va progresser automatiquement. Moi, j'ai toujours été partisan des regroupements au niveau national de ces sections.
Bon, finalement, vous y arrivez, évidemment, oui. Et tu décides d'aller à l'INSEP, mais alors là, les débuts sont durs.
Hein. Oh, c'est même, il n'y a même pas de mots, c'est même pas de la dureté. C'est... Dans mon club, évidemment, je faisais partie assez rapidement des meilleurs, en sport-études aussi. Et là, je passe du stade d'un garçon qui tient debout et qui est considéré sérieusement par les autres, au stade de viande, de chair à canon, quoi, vraiment. Et tous les jours, je me fais massacrer la tête. Je ne fais tomber personne. Pendant un an, je n'ai pas fait tomber un seul judoka à l'INSEP. J'en ai pris plein la tête tous les jours. Quand je dis plein la tête, je n'étais pas battu. Hein. C'est évidemment dans le judo, dans la rue du judo, forcément. Mais c'est comme ça qu'on dit. Et j'en baffe tous les jours. Chaque journée, à chaque fin d'entraînement, je me demande ce que je fais là. Quoi. Tellement
tu as 16 ans ? Tu as 16 ans, ouais. Et tu combats avec les seniors.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que je combats avec les membres de l'équipe de France senior, alors junior et senior, et surtout senior. Et je vous assure que personne ne vous fait de cadeau. Personne. Il y a zéro sentiment. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que si on est capable d'endurer psychologiquement cette dureté-là pendant une année complète, après on peut tout endurer. On peut tout faire. On est capable de tout faire. Et Dieu sait si j'en ai vu par la suite arrivé même quelquefois plus âgé que moi, enfin c'est même pas quelquefois, c'est à chaque fois plus âgé que moi, en général les gens rentraient à l'INSEP vers 18-19 ans, eh bien j'en ai vu des dizaines et des dizaines craquer au bout de 3, 4 mois, 6 mois, parce que c'était trop dur, quoi.
Voilà. T'étais pas le seul à souffrir.
Oh non.
Il y en avait un autre.
Non, il y a mon meilleur ami, mon frère, Cédric Dermé. On avait le même âge, même corpulence, même gabarit, même potentiel, repéré au même moment. On a 10 jours d'écart, même année de naissance. Voilà. Lui parisien, moi issu de la ruralité, le rat des villes et le rat des champs, voilà, c'est un peu ça. On s'est rencontrés en finale des Championnats de France quasiment tout le temps. C'était mon pire ennemi sur le tatami. C'est devenu mon meilleur ami, même plus que meilleur ami, c'est mon frère. Et à l'époque, on se retrouve tous les deux là dans cette galère, vraiment. Ouais. Et tous les deux, on souffre.
Et lui s'en souvient bien.
Ah oui.
C'était des jeunes lourds. Et pour vous dire comment c'était dur, quand on sortait de la salle de judo, on sortait le soir tard. Tout droit, il y avait la cantine, et à gauche, il y avait notre chambre. Il y a des fois, on allait directement dans notre chambre sans passer par le dîner qui était important pour nous. Et pour vous dire à quel point on était fatigué, on prenait une douche, on allait se coucher, on se réveillait le lendemain, et puis ça a recommencé. Et heureusement qu'on se soutenait, parce qu'il y a des jours, on se demandait comment on allait faire pour remettre ça le lendemain.
Ouais, il a tellement raison. C'est vrai, on était bêtés. Et un jour, on s'est vraiment soutenu, maintenu. D'ailleurs, je crois que la solidité de notre amitié, notre fraternité, elle est née là, quoi, dans la dureté. C'est vraiment mon frère de combat, quoi, mon frère d'armes. Parce que c'était un jour c'était l'un, un jour c'était l'autre, le moral dans les chaussettes, en alternance, en permanence, mais c'était tellement compliqué, tellement dur, tellement...
Mais ça t'a forgé un sacré mental, hein. C'est d'ailleurs ça qui t'a forgé ton mental.
Ouais, j'avais, Serge Coster, mon entraîneur de sport-études, celui qui m'a donné le déclic de l'amour, de la compétition, vraiment, après les propos de Fabien, m'avait déjà forgé, déjà commencé à construire ce mental, mais vraiment, véritablement, c'est l'INSEP, et c'est l'action, et c'est le terrain qui a construit cette forme de dureté qu'il fallait avoir pour faire ce sport de combat, en fait.
Sur cette jeunesse, non pas difficile, parce que tu vis, en tout cas, tu évolues dans ta passion, mais oui, évidemment, il faut y mettre ses tripes pour réussir. On va écouter l'une de tes filles, Myriam.
Ah, Myriam ?
Ouais, on va écouter Myriam.
Il a une grâce particulière sur sa vie, hein. Il a eu un bon corps bien grand, il a de bons gènes normands, ça c'est sûr, mais il a aussi beaucoup travaillé et je pense que c'est ça qu'on retient aussi de David Douillet l'athlète, c'est que oui certes c'est un beau bébé qui n'a pas eu une enfance facile non plus, attention, et il a su se construire une identité, il a su, je vais pas dire vaincre la vie, c'est pas ça, mais il a quand même pas eu une bonne chance au début. Il s'est forgé un caractère, il a été persévérant. Il a vraiment mis sa vie de jeunesse de côté.
Elle me connaît bien, ma fille. Hein.
David Douillet dans la boîte à souvenirs sur RMC. Je t'invite à piocher un nouveau papier dans cette boîte.
Allez. Les pompes de la Dream Team.
Les pompes de la Dream Team.
Oui.
J'imagine que ça te rappelle quelque chose. Nous sommes à Barcelone.
Exactement.
Barcelone. 1992, l'hymne des Jeux Olympiques.
Oui.
Tu as 23 ans.
Oui.
Et les sélectionneurs de l'équipe de France décident de t'emmener au JO parce que tu es le seul à bien combattre face à des gauchers, c'est ça ?
Exactement. J'étais en concurrence à l'époque avec Georges Matonnet, qui est un excellent combattant, hein. On était vraiment du même niveau. Et malheureusement, Georges avait beaucoup plus de difficultés que moi à battre. Il n'arrivait pas à battre des gauchers. Et dans la catégorie, il y avait beaucoup de gauchers en poids lourd. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été préféré pour partir sur ces Jeux Olympiques.
Tu arrives donc à Barcelone et là pour toi, évidemment, je le disais, tu as 23 ans, tu découvres le monde comme
gamin,
tu as toujours voulu.
Je suis un gamin.
Et là, il va se passer une scène assez réelle au moment de l'accréditation.
Exactement, on sort de l'avion, on est dans l'aéroport, les accréditations se font pendant les contrôles d'identité, parce qu'en fait, l'identité, on vous la donne à travers cette carte d'accréditation. Et là, on attend parce que c'est parce qu'il y a du monde, parce que tous les athlètes arrivent, parce que ce sont les premiers jours des Jeux, etc. Et je suis assis et c'est long. À l'époque, on n'avait pas de portable comme aujourd'hui. On pouvait pas aller surfer sur le net et passer et pas perdre trop de temps. Et là, j'entends un bruit de bizarre, un truc qu'on traîne par terre. Je me demande ce qui se passe. Puis je vois un défilé de chaussures, enfin de gens qui marchent devant moi. un espèce de troupeau, en fait, voilà. Avec des pieds, mais gigantesques. Et je vois ça, je regarde que les pieds d'ailleurs, je regarde pas qui c'est. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et puis, un type qui traîne son sac, voilà, qui le lève pas, qui ne daignait même pas le, voilà, prendre son sac en bout de ligne, il le traîne par terre. Voilà, je lève la tête, et là, c'est la, l'équipe américaine de basketball, la Dream Team, qui me passe là, hein, 50 cm de moi. Et Michael Jordan qui traînait son sac, pour le coup. Ça me fait halluciner, je me dis, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Il y a les meilleurs du monde dans toutes les disciplines. Tu prends la mesure de l'endroit dans lequel tu es, tu prends la mesure de la fête à laquelle tu vas participer, à laquelle tu as le privilège de participer, parce qu'il s'agit de ça. Et de voir des gens comme cela, avec une telle renommée, et puis aussi un tel niveau d'excellence, voilà, se balader normalement, vivre normalement, c'est exceptionnel, tu te sens un peu privilégié. Alors ce qui était aussi marrant, c'est que le bloc des Américains dans le village olympique était juste à côté du nôtre aussi, donc on les côtoyait régulièrement, on se voyait, on se parlait, quelquefois on a déjeuné ensemble dans les réfectoires qui sont communs à tous, et je dois dire qu'ils étaient géniaux, parce que ils ne sont pas comportés comme des stars pendant ces Jeux. Ils étaient dans le village, voilà. Ils ont vécu dans le village, ils ont mangé dans le village, ils ont dormi dans le village, parce que on a, dans certaines disciplines, dans certains cas, on en a vu certains ne pas. Et c'est malheureux pour eux, d'ailleurs, parce que, pour moi, le plus bel enseignement des Jeux Olympiques se passe dans le village, pour le coup, voilà. Et ils n'ont pas eu accès à ça. En tout cas, la Dream Team a eu accès à ça. Voilà. C'est ça qui est arrivé.
Mais alors toi, tu as 23 ans, évidemment plein d'étoiles dans les yeux, la magie, mais tu arrives avec quel objectif dans ces JO? Parce que je crois qu'il y a un copain judoka qui va te mettre en tête quelque chose.
Ouais, absolument. J'ai Bruno Carabetta, dans une discussion qu'on a dans le bus, je crois, en arrivant au village, qui avait fait médaille de bronze, je crois, à Séoul en 88, juste avant. Et qui me parle des Jeux, et qui me parle des médailles olympiques, et qui me dit un truc très particulier. Il me dit, tu sais, les Jeux, c'est autre chose, c'est pas le championnat du monde. Quand t'es médaille olympique, il me dit, moi je suis médaille olympique, j'aimerais être champion olympique, mais quand t'es médaille olympique, on dit, voilà, c'est le médaille olympique. Et tu restes médaille olympique toute ta vie, quoi. Et tous les gens te reconnaissent en tant que tel. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut pas rater. Et ça me parle beaucoup, ce qu'il me dit. Je sens que il me formalise, il me fait comprendre que c'est réellement un moment unique dans une vie. Voilà, ça peut n'arriver qu'une fois.
Tu restes donc bloqué sur la médaille, sur cette idée de la médaille. Tu passeras par les repêchages,
oui.
Mais il y a ce combat pour le bronze, pour la médaille de bronze face au Cubain Frank Moreno.
Allez David, il faut la dernière attaque, faut qu'elle soit forte. Oui, oui. Newton, David Douillet vient de marquer Newton à 9 secondes de la fin. Les entraîneurs français sont déchaînés. Regardez, la deuxième médaille pour la France, il reste 2 secondes. La deuxième médaille de bronze pour la France, c'est formidable. Le judo français a même 2 médailles aujourd'hui, une médaille de bronze et une médaille de bronze pour Natalina Lupino. Quand je vous disais que rien n'était fait, c'est formidable. Regardez la joie de Douillet.
C'est Thierry qu'on entend là, au commentaire. Thierry Ray, mon copain. Ouais, j'étais là chercher au bout du bout. Hein. C'est les mentales des insépiens, des judokas insépiens qui ressort là. Parce que j'étais mené face à ce Cubain et à 13 ou 15 secondes de la fin, je lance un mouvement et puis ça marque, quoi. Voilà. Ouais, c'est ma première médaille mondiale. C'est mon premier déclic, en fait. Je me dis qu'à ce moment-là, après coup, je n'ai perdu qu'un seul combat dans cette compétition, c'est face aux Japonais, et que le jour où j'arrive à les battre systématiquement les uns derrière les autres, là j'ai perdu qu'un seul combat, si je les gagne tous, je suis champion olympique ou champion du monde, ou les deux. C'est ça ma méthode.
Tu as 23 ans et tu passes des médias locaux aux médias nationaux. Ça y est, tu es devenu
un petit peu. Ouais.
Tu es devenu quelqu'un et tu as eu cette médaille. Et on va poursuivre cette boîte à souvenirs pour se remémorer ces bons moments de ta carrière. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec David Douillet sur RMC.
Thierry Arismendi.
Thierry Arismendi.
Ouais.
On est juste après les Jeux Olympiques de 92.
Ouais.
C'est le 6 mars 93.
13, ouais.
Donc quelques mois plus tard. Une date dramatique pour toi. Après les Jeux Olympiques de 92, la fédération décide de récompenser les judokas. Soit vous partez au Brésil, soit vous partez au Japon. Et toi, tu vas décider, avec notamment Jamel Bourras,
ouais,
Thierry Arismendi, de partir au Japon.
C'est ça. Donc en fait, on avait une récompense qui était celle d'aller à Rio et de participer au carnaval de Rio, ou alors d'aller s'entraîner comme des brutes, de souffrir et de bien se préparer pour les championnats du monde qui avaient lieu quelques mois plus tard au Canada, à Hamilton. Et bah, certains préféraient aller au Brésil et s'amuser. Et puis nous, les bons besogneux dont Thierry faisait partie, et Jamel et moi, on a préféré partir au Japon 3 semaines pour continuer à s'entraîner et à progresser. Simplement là-bas, et on a perdu Thierry. Voilà. Un soir, on changeait d'université chaque semaine. On était interne, donc du matin au soir, on s'entraînait avec les étudiants dans chaque université japonaise. Et on avait pris, parce que ça nous permettait de souffler et puis de se détendre, parce que c'était vraiment très dur comme stage. Le samedi soir, on se faisait un resto, voilà, parce qu'on mangeait sinon dans les réfectoires. Un petit resto, voilà, tranquillement, et en rentrant du restaurant, parce qu'on était à pied, Thierry, en traversant une rue, les Japonais se couchent assez tôt, puis il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas, dans l'endroit où on était. Au Japon, on roule à gauche, voilà, et y a une voiture qui ne le voit pas parce qu'il a pratiquement fini de traverser la rue, il est dans la pénombre du réverbère, et là, une voiture arrive assez vite, assez bien élancée, et elle le percute, voilà. Puis, donc voilà, Thierry meurt dans les bras de Jamel et les miens sur le trottoir. Ça fait il avait 24 ans, voilà. C'était un très très grand espoir, moins de 60 kilos, beaucoup de talent, famille formidable, et puis ça s'arrête comme ça, d'un seul coup, pof, on sort d'un restaurant, et puis là, pof, c'est fini. C'est très particulier, c'est très dur pour la famille, c'était dur pour nous, c'était dur pour Jamel et moi, parce qu'on a été témoins de ce qui se passait. Pour enlever cette image de voir votre copain se faire percuter par un véhicule, c'est compliqué. Et puis c'était une lourde perte pour le judo français, ça c'est sûr. De ce jour-là, je me suis dit, il faut vivre, parce que ça peut t'arrêter, comme ça s'est arrêté pour Thierry, d'une seconde à l'autre, à tout moment. Ça vous donne une espèce de philosophie de vie qui, bien sûr qu'il faut prévoir des choses sur long terme, bien sûr qu'il faut construire, mais il faut surtout vivre vraiment et pleinement. Voilà, parce que le temps qu'on a, on ne sait pas.
Jamel Bourras se souvient évidemment très bien de ce moment et ça vous a soudé.
En 93, au Japon, ça nous a marqué à vie. Je ne sais pas combien de temps après, maintenant c'est 27 ans plus tard, et ça nous restera toujours dans la mémoire. C'était vraiment un séisme pour nous. On a vu un pote se faire écraser par une voiture devant nous. Quand on a perdu, c'était un grand judoka. Je veux dire, lui, bon, c'est le décès qui n'a pas été champion du monde, champion olympique, mais moi, je suis persuadé, à mettre même ma main coupée, que lui, d'avoir été champion du monde, champion olympique, c'était un tueur.
Il a raison. Il a tellement raison. Vous savez ce qui s'est passé en ce moment et je me fous du jugement que les gens vont pouvoir avoir. Il y en a peut-être qui vont peut-être rire de ça. Jamel et moi, à ce moment-là, sans rien se dire, Jamel est musulman, moi, je suis chrétien. Tous les deux, on a prié pour notre pote en même temps, là, alors qu'il partait. Tous les deux, en même temps. Alors, vous voyez, quand on passe des moments comme cela, là, il n'y a plus de délire, je détiens la vérité, etc. On s'en fout complètement, quoi. Notre pote, il est mort. Et effectivement, avec Jamel, rien que pour ça, et pas que pour ça, mais c'est à la vie, à la mort, quoi. C'est le cas de le dire. c'était tellement monstrueux, dur à vivre, que nos personnalités, notre culture, nos religions n'ont fait qu'un. Et nous faisons toujours qu'un. Et c'est ça le sens du monde, en fait.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs. Avec David Douillet. Vous écoutez RMC ?
MapMonde.
MapMonde. Ah bah, le hasard fait bien les choses parce que nous allons continuer chronologiquement. Nous sommes quelques mois donc après le décès de Thierry Arismendi. C'était en mars 93. Nous sommes en octobre 1993 à Hamilton, au Canada. Les championnats du monde. Et tu vas réaliser ton rêve de gosse. On en a parlé en début d'émission. Ouais. Tu veux devenir champion du monde.
Exactement.
MapMonde, on va expliquer pourquoi dans quelques instants, mais juste se remémorer ça parce que David Douillet, c'est le rêve de gosse.
1m97 pour 131 kilos, l'histoire de l'ascension fulgurante sur le tatami d'un colosse normand. David Douillet est le premier Français à décrocher le titre de champion du monde de la catégorie reine du judo, les poids lourds. C'était la nuit dernière à Hamilton au Canada, Jean-Philippe Guillain.
Il a 24 ans, pèse 131 kilos pour 1m97 et vient d'être sacré champion du monde des lourds. En finale, face au grand favori, le géorgien Kakalechvili, Douillet va placer une attaque foudroyante qui surprend le champion olympique. Un avantage que le Français conservera jusqu'au terme du combat sous les acclamations de tout le clan français.
Voilà, c'est l'apogée d'une carrière, même si elle ne fait que commencer quelque part.
Ouais, je m'étais dit effectivement que voilà, je suis champion du monde, tout le reste ça va être que du bonus, ça ne va être que du bonus parce que mon rêve il est assouvi quoi. J'ai réalisé mon rêve. C'est un moment incroyable parce que Kakalechvili, le géorgien, m'avait mis une fessée monumentale au dernier championnat d'Europe juste avant, en mai. Il avait été intouchable, il m'avait battu en finale, j'avais fait vice-champion d'Europe juste derrière lui. Et donc c'était la revanche, quoi. Et je dois dire que je n'étais pas fier de l'avoir en face en finale, parce que j'avais encore en mémoire le combat difficile que j'avais eu face à lui. Et de le battre là, bon, je me suis dit, je l'ai battu au bon moment, quoi. Je préfère que ce soit dans ce sens-là.
Qu'est-ce que tu fais après le combat? La première personne que tu appelles?
J'appelle ma grand-mère, comme je faisais toujours. J'essayais toujours de la rassurer. Et elle me dit un truc invraisemblable. J'ai eu du mal à contenir mes larmes, je dois dire, parce que elle m'a rappelé ce que je faisais quand j'étais gamin, en fait. Quand j'étais gamin, quand je devenais champion de district, champion de Seine-Maritime, champion de Normandie, champion d'interrégion, j'avais pris l'habitude de regarder sur une carte la superficie du territoire que j'avais conquis, comme un espèce de chef de guerre là qui est très fier de lui et dit voilà, je suis champion de tout ça. Mais je le disais à personne, hein, c'était mon petit truc, mon petit bidule à moi. Et puis je m'en étais ouvert à ma grand-mère qui ça la faisait rigoler. Sauf que là, elle m'a dit, tu sais mon petit fils, ce matin j'ai pleuré. Parce que la map monte qui est dans la salle à manger, eh ben je me suis dit que mon petit-fils, il était champion de tout ça.
Très jolie histoire où tu nous racontes que, évidemment, tu griffonnais d'abord Neuchâtel-en-Bray certainement, après la Normandie, après la France, après l'Europe, et puis là, la map monde.
Ouais, en fait, j'avais arrêté de le faire parce que je faisais ça sur les calendriers de fin d'année, donc ça s'arrêtait au département, c'était compliqué après.
Oui, mais il fallait viser plus grand, viser le monde. La boîte à souvenirs avec David Douillet, ça continue, un nouveau papier, David.
T'es un dieu vivant. Ah ça, je sais qui est-ce qui l'a dit, ça.
Ah,
c'est Thierry.
T'es un dieu vivant, exactement. Thierry Rey, le commentateur de judo, notamment durant les
Le meilleur les, commentateur qu'on ait jamais eu. faut quand même préciser que Thierry a tout gagné lui aussi. Il a été champion d'Europe, champion du monde et champion olympique. C'était le premier Français à réunir tous ces titres.
Alors nous sommes le 22 septembre 2000, finale des Jeux Olympiques de Sydney.
Pas trop Douillet qui tient. Allez, mon grand, allez. Allez, qui est? Attention à ça, oui! C'est un génie. Bon, je ne vais pas m'énerver. Regardez le génie du judo mondial. Allez, qui est? C'est génial. Putain, il a gagné. T'es un monstre. T'es un dieu vivant. T'es un dieu vivant. Regardez, pardon, hein, il y a des gens qui doivent sourire ou qui doivent rire de nos réactions, mais si vous saviez comme c'est énorme.
Ouais. Mais Thierry, il est... en fait, pourquoi ça se passe comme ça pour lui? Parce que on a une vraie proximité. C'est mon président de club. Il est président du PSG Judo et je suis sociétaire du PSG Judo. Et Thierry, il sait dans quelle galère je suis physiquement depuis quelques années, depuis mon accident de moto, depuis 96. Et il me suit vraiment au quotidien, quasiment. Il sait tout ce que j'ai dû faire, tout ce que j'ai dû mettre en place pour revenir au plus haut niveau.
Et on en reparlera justement un petit peu plus tard de cette préparation. Ouais. C'est le hasard qui fait que tu as pioché cette Olympiade.
Exactement.
Ta dernière Olympiade, tu l'as réécoutée parce que c'est un des commentaires les plus mythiques des Jeux Olympiques. Tu l'as réécouté souvent ou pas?
Non, je réécoute. Moi, j'aime pas regarder en arrière, donc je réécoute jamais les choses moi personnellement. Mais on me l'a déjà amené
bien sûr.
Lors d'émissions comme celles qu'on fait.
En moins bien, j'espère.
non. Mais c'est un moment. Il est hors du temps ce moment. Il a raison. J'ai eu peine à m'entraîner jusqu'au dernier moment. J'ai réussi à me remettre au plus haut niveau en très très peu de temps et à redevenir un athlète, puis ensuite un athlète compétitif et puis enfin un athlète de haut niveau et d'aller pouvoir défendre ce titre. C'est pour ça. Lui, il connaît toute l'histoire. En fait, pourquoi il est comme ça, c'est pas qu'une victoire ce jour-là. Lui, dans sa tête, je suppose qu'il a tout en mémoire. Il sait tout ce qui s'est passé. Il connaît tous les détails. Donc, il sait tout le boulot.
Alors, pour cette dernière Olympiade, parce qu'on parlera tout à l'heure de tes années de souffrance, évidemment, il y a eu 96 avec cette médaille d'or. Il y a 2000, c'est ta dernière Olympiade, tu le sais. Et tu veux tout vivre à fond. Et la veille, Marc-Alexandre, ton entraîneur, te donne le programme, tes adversaires. Tu te rappelles de ce que tu faisais avec le programme?
Je crois que je le jetais. Je m'en fichais complètement. Voilà, ça ne m'intéressait pas parce que je partais du principe que il fallait que je batte tout le monde. Donc, peu importe qui je pouvais avoir au premier tour, au dernier tour, etc. Ou si je pouvais spéculer, etc. Je m'en fichais. Donc, j'ai toujours été dans une psychologie pour être champion, faut battre tout le monde. Point à la ligne. Et c'est pas plus compliqué que ça, du début à la fin.
Ce jour-là. Tu as effectivement jeté la feuille, mais tu ne l'as pas toujours jetée, cette feuille. Parfois, tu faisais autre chose avec cette feuille. Alors... Jamel Bourras nous raconte.
Je veux dire, il n'y a que dans sa catégorie à lui, où il n'y a que lui qui faisait ça. Je veux dire, il regardait son tableau de compétition, son tirage au sort, et il te disait, bon, lui, il est costaud, mais il est bête. C'est bon. Lui, bon, laisse tomber, il n'a qu'un mouvement, il sait faire que ça, bon, c'est bon, laisse tomber. Voilà, il n'y a que lui qui... C'est pas qu'il ne respectait pas ses adversaires, c'est qu'il était en fait sûr de lui, son analyse elle était impeccable, il savait très bien, il les connaissait. Et moi j'hallucinais.
Et tu savais que tu allais être champion du monde ou
Non, je savais jamais, mais ce qui pourrait être pris pour un excès de confiance, c'était pas du tout ça. J'étais vraiment objectif, quoi. Quand je dis.
Jamel le savait. Il est vraiment bête.
Bah oui, c'est ça. Bah oui, bah voilà, ouais, c'est comme ça. Mais j'étais vraiment objectif, donc je connaissais parfaitement mes adversaires. En fait, il y a un vrai secret quand on fait un sport de combat, d'ailleurs, quand on veut réussir quelque chose et quand on est en compétition. C'est d'observer vraiment finement ce contre qui vous allez combattre ou vos ennemis, vos adversaires. Mais je vais même plus loin. Il faut même les considérer comme des partenaires et plus comme des adversaires. C'est-à-dire, faut pas qu'il y ait de coupure. Faut vraiment les regarder. Chaque détail compte. Voilà, les plus petits soient-ils, c'est tout compte. La réaction, l'énervement, l'excès de confiance, la petite blessure, le petit truc. Chaque détail est important. Tout est important. Il ne faut pas se créer un rideau opaque entre vous et eux. Au contraire.
Et ce 22 septembre 2000, ta dernière journée en tant que sportif, elle avait mal commencé cette journée d'ailleurs.
Ouais, pour deux raisons. La première, c'est que j'avais une vieille blessure qui datait de 10 ans auparavant face à mon ami Georges en finale Championnat de France. Je m'étais subluxé le coude et cette blessure avait ressurgi quelques semaines avant la capsule qui entoure le coude, elle était déchirée, j'avais un petit bout de cartilage qui se baladait, j'avais le coude qui se bloquait. Donc en prenant ma douche le matin de la compétition, je me suis bloqué le bras. C'était un peu ennuyeux, voilà. Donc ça pouvait me tomber à n'importe quand. J'aurais pu me bloquer le bras à n'importe quel moment de la journée, ça n'est pas arrivé. Dieu merci, mais voilà, c'était pas facile à oublier, en tout cas ce genre de choses. Ça, c'était la première chose. Puis la seconde, c'est que mon premier adversaire ne s'est pas présenté. Alors ça, je suis pas rancunier, mais j'ai encore un petit goût d'amertume, parce qu'il m'a privé d'un combat, quoi. J'adore la compétition, j'adore combattre, enfin, c'était mon truc, voilà, mon rêve, c'était, autant l'entraînement m'a ennuyé, j'aimais pas ça, voilà, je suis pas un vrai sportif en réalité, je suis un vrai compétiteur, il a fallu que je m'entraîne pour être un bon compétiteur, voilà. Et donc, me priver de ce combat, c'est comme me priver d'un plat, d'un menu de dégustation que j'adore, quoi, voilà. Il était pas là. C'est un Uruguayen, je m'en souviens encore.
Bah, on l'a retrouvé. Non.
Alors, salopard, pourquoi t'es pas monté?
Non, on voulait pas lui faire ça parce que t'es encore costaud, évidemment, non, David.
C'est pas ça.
Donc, le premier tour, t'es en rage. Ouais. Et puis, bah, ça va trop vite cette journée, la demi-finale. Ouais. Et à la fin de la demi-finale, tu te dis, il en reste plus qu'un, quoi.
Ben oui, je me dis, je gagne cette demi-finale, donc je suis en finale. Et comme à l'habitude, je reste, parce que l'autre demi-finale se déroulait juste après la mienne. Donc, je suis resté, j'ai récupéré en jetant un œil. En observant déjà, je viens d'en parler, mais en observant l'éventuel futur adversaire que j'allais prendre, c'est-à-dire ou le russe ou le japonais à l'époque. Et donc j'observe tout, lequel est en forme, lequel doute ou ne doute pas, lequel fait ceci ou cela, les nouveautés. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, mais j'y suis déjà, mais c'est mon dernier combat, quoi. Oh non. Et je suis un peu déboussolé de ça, quoi. Il ne me reste plus qu'un. De toute ma vie. Je sais que c'est la fin. Je sais que j'ai déjà pris cette décision. Il s'agissait de ma dernière compétition. J'aurais voulu que ça continue. J'aurais voulu combattre toute la journée. J'aurais voulu faire 10, 15 combats, quoi. Puis en fait, non. Et c'est comme ça.
Ouais. Et puis ce combat, on a entendu un Thierry Rey face à Shinohara. Il aurait été un petit peu controversé parce que les Japonais sont persuadés d'avoir gagné.
Oui,
bon, je ne veux pas remettre une petite pièce, mais...
Oui, c'est tout,
en tout cas, ils ont longtemps été persuadés d'avoir
ouais,
gagné.
C'est tout le fair play des Japonais. Ouais. Ils ont spéculé sur un mouvement que je fais, en prétendant que j'avais été contré, alors que ce n'est pas le cas du tout. Les arbitres l'ont... D'ailleurs, pour les calmer, ils ont réuni une commission d'arbitrage juste après, qui a dit que non, effectivement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais quand même, ils nous ont bien cassé les pieds. Ils sont mauvais perdants.
C'est un joli pied de nez à tous ceux qui ont douté de toi à ce moment-là, quand même, d'avoir la médaille d'or.
Oui, parce qu'il y en a un paquet. Parce que comme j'avais beaucoup de difficultés à m'entraîner compte tenu de mes séquelles physiques dues à l'accident, oui, beaucoup m'avaient enterré, beaucoup disaient oui, mais bon, il s'éparpille, il fait tout un tas de choses, il fait des publicités, il répond à des sollicitations, il s'entraîne plus, etc. Il fait le combat de trop, voilà. Bon, très bien. Sauf que, non, allez vous faire voir, quoi. Vous savez pas qui je suis, vous savez pas ce que j'aime, vous savez pas ce que je suis, quoi. Et je vais vous le montrer, parce que ce qui me plaît, c'est la compétition. Ce qui me plaît là, à ce stade-là où j'en suis, où j'ai tout gagné, c'est même pas d'être le médaille d'or. C'est même pas ça. Ce qui me plaît, c'est de faire un maximum de combats et d'essayer d'atteindre la perfection. C'est ça qui me plaît. D'ailleurs, c'est la meilleure méthode pour être médaille d'or, pour le coup. Mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire la compétition parfaite. Je voulais faire les combats parfaits. Et pas facile. Mais je voulais leur montrer qu'il n'y a que ça qui m'animait. Et que je perde ou pas, c'était le cadet de mes soucis. Réellement, réellement.
La persévérance, c'est Myriam, encore une fois, ta fille, qui nous en parle.
Un des adjectifs pour mon papa, c'est qu'il est persévérant. Peut-être têtu, parfois. Mais il sait ce qu'il veut. Et je pense que c'est pour ça que ça a été un des plus grands athlètes de tous les temps. C'est parce qu'il n'a pas écouté les petites voix qui lui disaient « Attention, là, tu vas avoir mal. Attention, ça, tu ne peux pas faire. » Non, il a toujours essayé de dépasser ses limites. Et s'il avait écouté tous ses médecins et kinés qui lui disaient « Ne fais pas ça, ça va être pire ou tu vas te faire encore plus mal », il n'aurait pas décroché ce titre.
Eh ouais, mais elle me connaît vraiment bien, ma fille.
Ce moment, justement, sur le podium, il y a quelqu'un qui nous en parle très bien, qui te connaît très bien, mais qui ne faisait pas partie de ta vie à ce moment-là. C'est Vanessa, ta compagne dans l'époque. Et quand elle voit cette image, elle sait ce que tu penses.
Moi, je suis très émue quand je vois le dernier titre de David et qu'il est sur la première marche, qu'il regarde le drapeau français, qu'il chante la Marseillaise, parce que je perçois dans son regard cette émotion étrange. C'est-à-dire qu'il est tellement heureux d'avoir gagné. Je vois en lui ce petit garçon qui a accompli son rêve. Et je vois aussi ce regard qui se dit « et après ».
Ouais, elle a raison. Elle a tellement raison. C'est très, très compliqué. Elle a tellement raison. Et après. Eh oui, c'est de l'ordre de l'électrochoc, quoi. C'est de l'ordre du choc thermique. C'est de l'ordre, c'est de l'hydrocution, quoi. C'est affreux, quoi. On est encore dans un élan extrêmement positif, qui est celui de la gagne, de la médaille d'or, etc. Et puis, boum, c'est le seau d'eau glacé sur la tête en vous disant « Stop, c'est terminé, tu t'arrêtes, c'est fini là, demain c'est terminé. Tu n'auras plus jamais ce plaisir de ta vie. » Et pour l'avoir partagé avec Jean-Claude Killy quelques années auparavant, parce que je redoutais ce moment-là, parce que je voulais avoir l'avis d'un homme d'expérience, et parce qu'il a vécu ça, Jean-Claude m'avait dit à l'époque « Tu sais, il faudra que tu en fasses le deuil rapidement parce que quoi que tu fasses, tu ne retrouveras jamais, jamais cette adrénaline, ce plaisir, cet engouement. Voilà, c'est comme ça. Il faudra pas l'effacer, ça fera partie de toi. Il ne faudra pas que tu essaies de le rechercher dans autre chose, ça n'existe pas.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec toi, David Douillet.
Bonne.
Eh bien, justement, ça tombe bien que tu tires ce papier maintenant parce que tu t'en souviens de Bonn, B-O-2-N,
oui, c'est oui,
un
oui,
village
c'est la ville.
En Allemagne,
ah, en Allemagne ouais.
Qui va compter
ouais.
Pour toi, c'est justement cette préparation
exactement.
Aux Jeux Olympiques 2000. Ouais. Il faut dire qu'entre 97 et 2000, tu es embêté par les blessures. D'ailleurs, tu vas déclarer forfait pour les championnats du monde 1999.
Ouais.
L'objectif dans la tête, c'est Sydney 2000. Mais tu le disais, il y a beaucoup de gens qui doutent de toi, beaucoup de proches aussi, qui te dissuadent d'aller aux Jeux Olympiques, de faire le combat de trop. On va écouter Jérôme Dreyfus à ce moment-là. Il s'en souvient très bien.
Et on ne le voit toujours pas arriver sur le tapis en 2000, début 2000, quoi. Donc là, les gens, ils commencent à, effectivement, pas mal de personnes doutent. J'ai même des entraîneurs nationaux qui viennent me voir en me disant « Jérôme, il faut que tu te mettes dans les configurations, tu vas faire les Jeux, parce que David, c'est compliqué ». Il a du mal à s'y remettre, il a du mal à résoudre son problème de dos, et c'est compliqué, et puis...
C'est compliqué, et ça t'embête ces doutes autour de toi ?
Oui.
Jérôme Dreyfus, c'est le sparring partner, hein.
Ouais.
Enfin, en tout cas c'est le deuxième judoka dans la catégorie.
Exactement, d'ailleurs c'est grâce à Jérôme que je participe aux Jeux Olympiques, parce que à l'époque... il y avait un système de ranking list ou de résultats. Jérôme me remplace au championnat du monde auquel je n'avais pas pu participer.
En 99.
En 99. Et il fait cinquième.
Et il faut être dans les cinq premiers pour
voilà.
Qualifier la catégorie, la nation à la catégorie
exactement.
Aux Jeux Olympiques.
Ce qui fait que grâce à Jérôme, je n'ai pas besoin d'aller chercher une qualification olympique toute l'année qui m'aurait complètement dégradé parce que j'avais plus grand-chose dans les valises arrière pour, comme énergie et de potentiel pour aller jusqu'au jeu. Donc, il qualifie la catégorie de poids et la nation, donc son poste ou le mien, quoi, parce que ça flottouillait encore. Puis à l'époque, j'ai des entraîneurs ou des proches qui doutent vraiment de ça, parce qu'ils ont raison de douter d'ailleurs. Hein, tout, comme le dit Jérôme, il y a des signes à l'extérieur qui peuvent, qui sont là, qui sont suffisamment clairs pour insinuer ce doute. Alors, quelquefois, je suis un peu déçu de certains, parce que ils ont eu un doute assez rapide, un peu trop rapide à mon goût. Et puis, d'autres, parce qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils ne savent pas réellement qui je suis vraiment. Bon, je suis un amoureux de la compétition, voilà. Donc, je voulais faire cette compétition. Je voulais participer à ce dernier repas. Voilà, il n'y a que ça qui comptait pour
moi. Le repas du condamné.
Exactement, le repas du condamné. Je savais qu'il n'y en aurait pas d'autre après. Il était hors de question que ça m'échappe.
On est en 2000, donc, quelques mois avant les Jeux Olympiques, et l'équipe de France part en stage à Vittel. Est-ce que tu te souviens de ce
ouais.
moment ? Jérôme Dreyfus, lui, se souvient d'un moment extrêmement marquant.
La fédération avait décidé d'organiser un petit stage à Vittel et, pour quand même nous maintenir en activité tout en mettant en place un programme je vais pas les dire allégés, mais un peu plus souples. Mais ils voulaient nous maintenir sportifs. Alors, ils avaient proposé plein d'activités, tout, c'était super. Donc, là, les journalistes viennent, ils font une conférence de presse, et David prend la parole, et il n'attend même pas une question. Il a dit, écoutez, je sais pourquoi vous êtes là. Je sais qu'il y a des doutes qui planent. Je sais que peut-être vous-même vous doutez. Je vais vous dire, rendez-vous début septembre aux Jeux Olympiques à Sydney, et je serai champion olympique.
Comme quand t'étais petit, quand t'annonces que tu vas être champion du monde.
Ouais. Mais c'est à deux vertus de faire ça. La première, c'est de calmer l'espèce de bruit de fond négatif qui bourdonne de partout. Et puis la seconde, vous dites, bon voilà, j'ai affiché le menu, enfin que je m'y tienne. Quoi.
Oui, parce que ça fait plus d'un an que t'es pas remonté sur un tatami, quand même. Ça. Enfin, en tout cas,
Réellement,
réellement à haut niveau. Ouais. Mais ouais.
Ouais. Donc là, je me pousse moi-même au cul pour... j'affiche, je me dis, voilà. Et c'est bien, parce que on s'oblige, on se force. C'est un verrou supplémentaire, voilà, qui permet de...
Et on arrive justement un mois avant les Jeux Olympiques de Sydney, à ce tournoi en Allemagne, à Bonn. Et là, tu es battu en demi-finale par un Allemand, il s'appelle Frank Möller.
Frank, ouais.
Et là, ça te fout les boules. Là, tu as les boules.
J'ai les boules, mais pas tant que ça. J'ai les boules parce que j'aime pas perdre. Ça c'est réglé. Mais j'ai les boules parce que beaucoup m'enterrent à ce moment-là. Les journalistes, certains entraîneurs, même des coéquipiers qui m'enterrent. Sauf que personne n'a compris, peut-être Jérôme d'ailleurs, il n'y a que lui, il n'y a que les deux, trois avec lesquels je m'entraînais quotidiennement qui pouvaient le comprendre et le voir. Mais en réalité, moi j'avais besoin de faire une prise de température pour savoir exactement où j'en étais, physiquement et techniquement. Et techniquement, j'avais essayé un certain nombre de choses qui n'avait pas marché, parce que je m'étais fait battre. J'avais essayé, tenté deux, trois trucs. Il y a un truc qui n'avait pas marché. Bon, je me fais battre, très bien. Mais ce n'était pas un problème. J'étais en train de me régler. Franchement, je me réglais. Et à l'issue de ce tournoi, quand je rentre, j'étais hyper content.
Avant justement ce retour, on va écouter Jérôme. Voilà. Et après, non, mais tu as raison. Mais après, on va parler du retour, parce que là, c'est mémorable.
On va à ce tournoi en Allemagne, où... Il se fait vraiment chahuter par un jeune Allemand,
oui,
qui s'appelait Tolzer à l'époque, qui a été pas mal après, mais il était jeune, alors je me disais, putain, il se fait secouer par des gens comme ça. Et puis, il perd contre un Allemand, le numéro un senior, qui ira au jeu, hein, je sais qu'il ira au jeu. Il perd, et bien, quoi. Donc je me dis, bon, il n'est pas encore prêt. Et puis, je vois que là, l'orgueil du champion dans l'avion, au retour, nous, on est dans la cabine, dans l'avion, au retour, il est touché, quoi. Hein.
Là, t'es touché, tu rentres en France, et là, tu vas tout arracher.
Ouais, parce que je sais exactement où j'en suis. Donc, je sais exactement ce que je dois faire au quotidien pour être au top à telle date. Je n'ai plus en tête la date précise des Jeux Olympiques, mais pour moi, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si les Jeux, je ne sais plus...
C'est le 22 septembre.
On l'a eu le 22 septembre, voilà. Donc, on est au mois de juillet, et le 22 septembre, je dois être au top de mes capacités. Pas le 21, ni le 23, le 22, et j'y serai. Je serai préparé pour ça. Je me programme comme un missile.
Comme un missile, tu te programmes d'ailleurs à l'entraînement qui suit. notamment Jérôme Dreyfus s'en souvient encore.
Le lundi matin, on a un premier entraînement, je peux vous dire, horrible. Horrible, il a été là. Et là, mais horrible. C'est-à-dire que physiquement, puisqu'il avait quand même emmagasiné un gros travail, il a juste ce ressort. La compétition lui a tapé sur l'orgueil. Et là, à partir de ce moment-là, il a été vraiment. Cette semaine-là, il a été intouchable. Ça doit être là, à ce moment-là, où je lui ai dit quand t'es comme ça, on ne peut rien faire, quoi. Là, il était très, très, très dur.
Ouais, parce que c'était ton sparring partner, et c'est lui qui te dit t'es intouchable. Là, tu vas gagner, quoi.
Ouais. Et puis Jérôme, chaque jour, me disait putain, t'as encore monté d'un. Mais du jour au lendemain, hein, c'est pas au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, hein, me disait waouh, t'es monté d'un cran, et un cran là, et un cran là, et un cran là. Et ça crantait chaque jour. Jusqu'à la. Quasiment à la veille des Jeux, où on fait un dernier entraînement ensemble. Et Jérôme me dit, Fabien aussi, parce qu'on s'est chauffé ensemble, il me dit, je t'ai jamais vu comme ça, quoi. J'ai jamais vu comme ça. Il me dit, je peux pas mettre les mains sur le kimono. Quand tu lances un mouvement, j'ai l'impression de prendre un autobus en pleine figure. Lui, il sait. Il le sait. Il est un des rares avec Fabien Canu. Il était directeur technique national à l'époque. Il y en a deux ou trois qui savent vraiment le niveau auquel je suis à ce moment-là.
Alors, pour bien comprendre le David Douillet compétiteur, on a ressorti et on a contacté évidemment l'un de tes deux entraîneurs historiques, Marc Alexandre, sur une anecdote où vous allez comprendre un petit peu l'esprit de compétition que peut animer David Douillet.
Et on était à un stage à Bourg-Saint-Maurice et on était à un stage de vélo et de judo, quoi, en fait. Et on part avec David à vélo et il se casse la figure en vélo. Le bras déchiqueté, enfin bref, pas mal de choses. Donc 4-5 jours après, le médecin l'autorise à refaire du vélo. Et donc nous, on revoit la partie. Alors je dis à David, calme-toi, dans les descentes, fais gaffe. Et je vois, on reprend la même route, au même endroit, et je vois mon David qui accélère à fond la caisse, etc. Et moi, je criais derrière, etc. On arrive en bas, et je dis, mais David, quand même. Il dit, je voulais aller plus vite qu'à l'aller et te prouver que je me suis pas cassé la figure. Voilà les coups de folie qu'un super champion peut avoir, quoi, en fait.
Le champion.
Ouais, ça peut paraître con, mais c'est des petites choses comme ça qui font que vous êtes capable de faire la différence. De toute façon, pour faire du haut niveau, faut être en delà de la norme, en deçà. Vous ne pouvez pas faire de haut niveau, vous ne pouvez pas gagner une grande compétition si vous restez dans le confort, dans ce que vous savez faire, dans la routine. C'est impossible. Voilà. Il faut être tout le temps dans l'inconnu, il faut être tout le temps en train de défricher des terres qui vous sont étrangères. Il faut être tout le temps dans le doute, il faut être tout le temps dans l'inconfort. Le haut niveau, c'est de l'inconfort complet. Donc, c'est pas parce que vous avez pris une gamelle en vélo et que vous avez le dos arraché que ça doit... arrêter quoi que ce soit, ça doit passer au-dessus, ça passe au-dessus de la douleur, ça passe au-dessus des conséquences, il faut que ça passe, parce que c'est ça le nous, parce que au plus dur de la tempête dans une compétition, au cœur d'une compétition, au cœur de l'importance d'une finale olympique ou d'une finale du championnat du monde par exemple, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres, c'est tellement compliqué qu'à un moment donné, il faut déconnecter de tout ça et passer dans un autre mode, celui où on va chercher Et on va optimiser ce qu'on a de mieux en soi. Voilà. Et on va à l'essentiel. Et on va au bout de l'essentiel. On veut aller dans l'exagération totale. Voilà. Ça a des mauvais côtés dans la vie de tous les jours, mais c'est ça un peu le profil psy de cette affaire-là.
La boîte à souvenirs avec David Douillet. Un nouveau papier avec toi.
Non, Douillet.
Non. Douillet.
Ouais, N-O-M. Hein.
Oui, exactement. Oui, c'est pas un slogan.
Non.
Non, Douillet.
Non, Douillet.
Non. Pourquoi il y a ce papier, tu penses?
Je porte mal mon nom, sans doute, j'en sais rien.
Pas du tout, mais tu n'aurais pas dû porter ce nom.
Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû m'appeler Brument. Voilà, qui est le nom de mon papa. Ouais, bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas très grave.
Non, mais c'est juste pour expliquer pourquoi c'est donc ta grand-mère Blanche qui va t'élever.
C'est que
ton papa est parti à la naissance.
Ouais.
Tu vas donc avoir le nom de ta maman.
Ouais.
Le nom, c'est Douillet.
C'est ça.
Et ta maman a besoin de travailler. Et donc, tu vas être élevé en Normandie par Mémé Blanche,
ouais,
ta grand-mère. Il y a un lien très fort, on l'a compris, dans cette boîte à souvenirs qui vous unit. Mais j'ai aussi envie de parler de ce nom de tes quatre enfants. Il y a Jérémy, il y a Myriam qu'on a entendu, il y a Mathéo, il y a Blanche,
ouais,
d'ailleurs, la
ouais,
petite dernière, qui s'appelle Blanche Douillet,
oui,
comme sa grand-mère.
Comme sa grand-mère. Comme son arrière-grand-mère.
Comme son arrière-grand-mère. Ils ont regardé tes combats, tes enfants?
Oui. Blanche, non, évidemment. Enfin, je...
Elle a 4 ans. Hein.
Elle a 4 ans. Si, oui, je pense que oui. Je pense que... En tout cas, Jérémy et Myriam, qui sont les plus grands, les ont vus certainement en direct même, parce que je me souviens qu'ils étaient à l'école primaire, et que mon dernier combat s'est passé tout cas, les Grenoblois l'ont vu, c'est sûr. Se passer le midi, et je crois que on est venu les chercher en classe pour aller voir le combat et tout. Et ensuite, ils sont venus m'accueillir à l'aéroport quand je suis rentré 2 jours plus tard. Donc, si, ils les ont vus. Et Mathéo aussi a dû probablement regarder tout ça en replay.
Je te le confirme, il a 21 ans. Oui, donc, il est né en 1999.
Exactement, ouais.
Et je te le confirme.
Ah bon?
Honnêtement, la première chose que je me dis à chaque fois, c'est putain, mais qu'est-ce qu'il est rapide. C'est le truc qui me choque à chaque fois. Mais après, bah c'est, enfin, moi ça me laisse rêveur à chaque fois que je regarde ça, parce que je me dis que c'est quelque chose qui doit être émotionnellement exceptionnel, et puis arriver au top du top de ce qu'on fait, au top du top de sa passion et dominer son sport, ça doit être un des sentiments un des plus gros sentiments qu'a dû éprouver mon père, et ouais, ça, voilà, ça me laisse rêveur.
Ça me laisse rêveur, c'est drôle, ça.
C'est sympa.
Ouais, bah oui, c'est super sympa. Non, c'est super sympa. Mais en fait, pour tout vous dire, sans vous donner de secret de famille, mais on n'en parle jamais, quoi. Et c'est pas les choses que je... S'ils le font, très bien, s'ils veulent se documenter, très bien, mais on parle jamais de ça, quoi. Heureusement, d'ailleurs.
Même si t'es costaud, tu les obliges pas à regarder les
combats. Non. Non, non, puis, enfin, le seul truc auquel je les ai obligés, c'était pratiquer un sport, voilà. Après, ils ont choisi, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. J'ai mon grand qui fait du basket pro, il s'éclate. Ma fille a passé son monitorat de ski. Mathéo, il a fait du rugby. Enfin, bref, ils ont choisi ce qu'ils voulaient, quoi.
Il a été facile à porter pour eux, ce don douillet?
Non, je pense pas. Particulièrement, peut-être pour Jérémy, qui lui a peut-être été victime de comparaison parce qu'il est athlète. Bon, même si c'est le basket, c'est différent, mais je pense qu'on a dû le saouler avec ça, ça c'est certain. Il ne le dit pas, il reste assez discret là-dessus. Je pense qu'il a dû le digérer, et puis il est intelligent, donc il a dû l'optimiser même, sans doute. Mathéo, on a dû lui casser les pieds quand il était petit, parce que dans les années 2000, il avait 3-4 ans, il commençait à aller à l'école, donc je pense que ça a été un peu complexe pour lui. Myriam, elle a toujours eu un fort caractère, donc elle défendait son frère dans la cour de récré. Peut-être de caractère, c'est celle qui est la plus proche de moi. C'est une battante, elle s'occupe pas trop des détails.
Une battante, mais on va l'écouter justement. Ah sur, bon ce nom, sur ce nom douillet.
Je vais pas vous mentir, après il le sait, ça a pas été facile tous les jours. Beaucoup plus pour mon frère, parce que mon frère est dans le milieu sportif, mais c'est vrai qu'on a quand même grandi avec le nom de Douillet, et c'était un nom très célèbre. J'allais toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était à l'école, évidemment, c'était un nom extrêmement célèbre, et c'était pas facile, parce qu'on avait aussi des moqueries, malheureusement, de certaines personnes. Je l'ai bien vécu, mais en même temps, je l'ai mal vécu. Je l'ai bien vécu dans le sens où on a grandi quand même avec une chance d'avoir pu voyager, d'avoir vécu des choses extraordinaires. Et d'un autre côté, c'était pas facile parce que, à cause du regard et de la jalousie des gens, malheureusement, on peut pas empêcher ça.
Ouais, ils sont restés discrets par rapport à ça. Souvent, je leur posais la question, et je crois qu'ils ont... Les enfants peuvent être merveilleux parce qu'ils ont dû vouloir me protéger de ça, quelque part. Parce qu'ils m'ont... C'est la première fois que j'entends Myriam me dire ça comme ça. Elle m'a dit oui de temps en temps. Elle a été assez évasive là-dessus, mais je me doutais que ça devait être comme ça. Forcément, c'est pas évident pour les petits loups. On peut pas plaire à tout le monde, c'est logique. Hein. Mais je me fais pas de soucis pour eux. Ils sont courageux. J'ai vraiment de la chance d'avoir des bons gamins, ce qu'on appelle des bons gamins. Ils sont bien dans leur peau, ils font des choses qu'ils aiment, ils sont gentils, c'est vraiment des enfants, j'ai de la chance d'avoir des enfants merveilleux, vraiment.
Pour les avoir au téléphone, je te confie,
ah, d'accord.
Très très gentil. On se dit dans la famille qu'on est fiers l'un de l'autre, ils sont fiers de toi, tes enfants?
Je sais pas, je pense que oui, mais encore une fois, c'est c'est des choses qui sont passées dans ma vie, mais j'en fais pas état, quoi. On n'en parle pas, j'en fais pas de morale là-dessus.
Oui, mais c'est toujours bien ou pas, je sais pas, mais c'est toujours bien de savoir si, si ses enfants sont fiers. On va écouter Jérémy, on l'a pas encore entendu, le grand.
Comment on ne peut pas être fier d'un tel parcours sportif, fier également de toute sa reconversion. En étant sportif, je le comprends davantage aujourd'hui. Et puis fier aussi de la personne qu'il est. On se dit pas forcément tout le temps les choses, c'est sûr. Voilà, je sais qu'il est fier de moi et je pense qu'il sait que je suis fier de lui aussi.
Il a raison. Je suis très très fier de mon fils, ouais, de Jérémy. Très très fier. Je trouve que il donne. Moi, je suis fier quand les personnes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et c'est le cas de Jérémy. C'est le cas de Myriam aussi, évidemment, dans son secteur, et Mathéo aussi. Donc j'ai de la chance. Je me doutais de ça, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est très particulier de parler de ça. Enfin, je vois pas un papa dire « Est-ce que t'es fier de moi, mon fils ?» C'est ridicule. Enfin, c'est absurde.
Dit comme ça, c'est
ah oui,
sûr.
C'est complètement absurde. Ça m'arrangeait de le dire comme ça. moi, par contre, je suis vraiment fier de mes enfants. Ça c'est certain. Après, vous savez, vous pouvez avoir des petits loups qui vivent mal ce dont on parlait, la notoriété, ou ça leur a peut-être posé d'immenses problèmes, et que peut-être dans cette balance d'admirer un parent, et ben, les inconvénients pèsent peut-être plus lourd, je ne sais pas. Ça peut arriver, hein, très certainement. Mais on n'en parle pas, ouais, c'est marrant, c'est comme ça, c'est dans notre truc. Je sais exactement ce qu'ils pensent de moi, là pour le coup, on va arrêter de parler des bonnes choses. Moi, je vais vous parler des mauvaises choses. Ils savent que je suis têtu et je le suis. Ils savent que je suis de mauvaise foi et je le suis. Ils savent que je suis ronchon et je le suis de temps en temps. Ils savent que je suis dur avec eux. Voilà. Ils savent que je laisse pas grand chose passer. Ils savent que quelquefois je suis un peu brutal dans ce que je dis. Enfin, je mets pas trop les formes. Donc, je sais qu'ils me connaissent parfaitement. Ils connaissent mes défauts. S'ils m'en pardonnent un petit peu, compte tenu d'une vie un peu particulière que j'ai pu avoir, bah, c'est plutôt sympa de leur part. Je sais que ça doit être le cas. Et si l'admiration l'emporte, tant mieux.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec David Douillet.
La sieste.
La sieste. Tu sais de quelle période de ta vie on va parler ?
Celle où j'étais athlète.
Exactement.
Voilà.
Tu fais certainement des siestes encore aujourd'hui, évidemment. Mais là, nous sommes à Atlanta. Ce sont tes deuxièmes Jeux Olympiques. On a parlé de Barcelone avec cette médaille de bronze. On a parlé des troisièmes avec, évidemment, Sydney et la médaille d'or. Tu es qualifié pour les demi-finales, où tu vas affronter le monstre japonais Ogawa,
ouais.
Qui t'avait battu d'ailleurs à Barcelone.
C'est ça.
Et là, juste avant cette demi-finale, le japonais va halluciner.
Et oui, il va halluciner. Enfin, moi, je l'ai pas vu. C'est Marc Alexandre qu'on a eu tout à l'heure qui m'a raconté l'histoire, parce que moi, je dormais pour le coup. Souvent, il y avait un bon bout de temps entre les quarts de finale et les demi-finales pour des raisons d'émission, enfin de retransmission. Et là, il y a 2 heures à attendre. Donc. Et puis moi, j'ai envie de... Je me calme, je me repose. Et souvent, ce que je faisais quand il y avait beaucoup de temps d'attente entre deux combats, bah, je faisais une petite sieste. Voilà, très régulièrement. Et là, je roule mon kimono. Je me fais un petit baluchon et je pose ma tête dessus et je dors un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà. Et en réalité, Marc me dit... Alors lui, il avait l'habitude de me voir comme ça. Mais le japonais, non. Lui tournait comme un fauve dans la salle d'échauffement. Et puis d'un seul coup, quand il m'a vu faire ça, il n'y avait plus grand monde, puisqu'il ne restait que les derniers qualifiés, il a halluciné. Il s'est planté devant moi, il m'a regardé. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a regardé dormir, en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait ce type?
Il y a une demi-finale des Jeux Olympiques.
Il y a une demi-finale des Jeux, il est en train de ronfler le mec.
Marc-Alexandre, on l'écoute sur ce souvenir.
Il ne vous en a peut-être pas parlé, mais... Moi, comme j'aimais bien suivre les athlètes de A à Z, c'est-à-dire du début de la pesée jusqu'à la fin, et je ne voulais pas lâcher. Et lui faisait sa sieste, et moi, j'avais la tête sur son ventre, parce que dès qu'il bougeait, comme ça, je voyais qu'il avait envie de bouger, qu'il avait envie de s'échauffer, etc. C'est vrai, c'était un moment très étrange et voilà, de proximité de l'athlète, quoi, en fait.
Donc, si je résume, tu es en train de dormir avec le coach qui est sur toi, oui, avant le demi-finale des Jeux Olympiques. Tu m'étonnes qu'il hallucine, le japonais.
Mais c'est ça, exactement.
Et cette demi-finale, cette finale avant la lettre, ouais, c'est la demi-finale et ça se passe comme ça.
David qui connaît bien Ogawa, qui a une revanche à prendre. Il faut se rappeler qu'à Barcelone, il avait perdu contre Ogawa dans son tableau. David qui n'a pas intérêt ou qui n'a pas envie d'emballer le match. C'est bien fait, ça, il faut revenir sur l'arrière. David qui marque un premier Yuko. Et là, on sent, vous voyez, que le japonais a dû travailler à la vidéo. David, il a fait un de ses trucs spéciaux. Aïe, 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 aïe. Attention à la dernière attaque du japonais. David Douillet mène et gagne et se qualifie pour la finale. David Douillet est en finale en battant Ogawa.
En finale, on peut dire que c'est une formalité après, en finale. Même si c'est jamais une formalité, c'est la finale des Jeux Olympiques.
C'est la finale des Jeux. Ernesto Pérez, c'était l'Espagnol, avait fait le ménage, lui, dans son autre tableau. Il avait battu tous les tauliers de l'époque aussi. Je savais qu'il ne fallait pas que je le néglige, même si je l'avais toujours battu, c'est vrai. Il ne fallait pas que je le néglige dans cette finale. Ce que j'ai fait, je l'ai pas pris à la légère, j'ai bien fait. Mais ça s'est bien passé.
Exactement, bon, ça s'est passé comme ça.
Il est à 5 minutes de ses mains. Il y a juste un Espagnol entre lui et son rêve. Il faut y aller. Allez, il faut prendre sa garde là. Attention, regardez, c'est un combat tactique. Yeah, il est champion olympique. David Douillet est champion olympique. Et il saute. Il peut sauter. Quel grand athlète. C'est merveilleux. Regardez. Oh, ça me fait plaisir. C'est extraordinaire. Regardez-le. Serein, tranquille. Quel grand bonhomme.
Et la sacrée David.
Ta première médaille d'or, le seul problème, c'est qu'on va te donner une mauvaise médaille.
Ouais, et j'étais en train de me dire, je reviens sur la mauvaise médaille, mais oui, là, j'étais en train de me dire, dans 3 ans, ça va faire trop de temps. C'est donc affreux.
C'était en 96.
96, ouais.
Donc, ça fait 24 ans,
ouais,
déjà.
Oui, aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Mais c'est affreux ce temps-là.
T'as l'impression que c'était hier ?
Mais oui, c'est terrible, quoi. Oh là là, c'est pas bien de faire ces émissions-là.
c'est bien de s'en rendre compte maintenant.
Oh, ben Dieu, non, mais c'est pas possible, ça. Non, c'est affreux.
On peut faire des maths différemment, si
oui,
tu
non,
veux.
Non, mais on fait différemment. Donc la médaille, oui, la médaille, on me donne, mais je m'en rends pas compte, parce qu'en fait, c'est écrit sur la tranche de la médaille, on me donne la médaille des lourdes féminines, qui a été remportée ce jour-là par une Chinoise, et qui, elle, s'en aperçoit. Donc j'apprends par la Fédération Internationale qu'ils sont trompés de médaille et qu'elle va me la rendre au Championnat du Monde l'année prochaine. Sauf que... Alors, c'est ce qu'elle a fait. Donc j'ai eu ma médaille un an plus tard, la vraie, quoi.
La vraie.
Pas celle du podium, la vraie.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, ça se passera aux Jeux Olympiques. Toi qui dors plutôt bien, on l'a vu avec cette sieste, cette nuit-là, tu dors pas.
Non, pas parce que je suis pas content, c'est parce que je suis dans un vide absolu.
T'as tout gagné là.
Parce que ce jour-là, j'ai tout gagné, ouais. Ce jour-là, voilà, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné et je me dis, mais comment je vais faire pour me remotiver, quoi ? Comment je vais faire pour me remettre dans le coup et est-ce que cette motivation est toujours là ? Je me sens au bord d'un précipice. J'ai plus de chemin. Il n'y a plus de chemin. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Et heureusement, j'ai un accident de moto qui me remotive et qui me permet de remettre les compteurs à zéro. Et, enfin, c'est heureusement, c'est complètement débile ce que je dis, parce que j'aurais pu y passer. J'aurais pu même ne plus jamais pouvoir faire le judo de ma vie, ne plus pouvoir être un athlète, être handicapé, etc. En fait, ça n'a pas été le cas, mais... En fait, ça a largement contribué à ce que je continue ma carrière.
Oui, parce qu'on est le 30 septembre 1996, ouais, sur l'autoroute A4.
Ouais.
Tu vas avoir cet accident de moto. Donc, on est quelques jours après, un mois après,
ouais,
après,
un mois pile,
après,
ouais,
après les Jeux Olympiques. Et là, le diagnostic n'est pas bon.
Ah non. Ah non, il n'est pas bon du tout, puisque les premières conclusions des chirurgiens, c'est de dire bah, on va essayer de vous sauver votre jambe, quoi, parce que c'est pas... Pas sûr qu'on puisse le faire. Et voilà. Donc, on ne se pose même plus la question, est-ce qu'on remarche ou pas ? Est-ce qu'on va faire du judo ou pas ? Est-ce que... Non, non, c'est... Première chose, on va voir si on peut sauver la jambe. Et puis après, on verra. Voilà. Donc ça vous remet les choses bien en place.
Ouais. Mais toi, tu y as toujours cru. Toi, tu t'es dit, c'est le moment, c'est le moyen de...
Ouais, dès le lendemain des deux opérations, parce qu'en 48 heures, 72 heures, j'étais opéré deux fois, l'épaule et la jambe. Et où là, j'apprends que, effectivement, ma jambe est toujours là. Lorsqu'on me dit, bon, on n'est pas sûr que tu puisses remarcher normalement, alors le judo, de ce jour-là, non. Dans ma tête, je me suis dit, je vais remarcher, je vais redevenir un judoka, et je vais redevenir un judoka qui gagne, qui va défendre son titre, et qui sera champion du monde dans un an, à Paris, en 97. Voilà. C'est ça ma marche, c'est ça mon programme, c'est ça mon cahier des charges. C'était dur, c'était pas réussi d'avance, mais voilà, quelque chose d'extrêmement négatif qui aurait pu être terrible, en réalité, m'a beaucoup aidé. Je l'ai positivé.
Et en 97, au championnat du monde, qu'est-ce qui va se passer ?
Bah, je gagne.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Ah bon ?
Nous sommes toujours avec David Douillet dans la boîte à souvenirs et maintenant nous allons sortir de la boîte car ça peut arriver. Quand on sort de boîte, il peut y avoir un petit interrogatoire. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Douillet, pour un interrogatoire ?
J'ai essayé.
Ton plus beau combat ?
Le dernier, celui de Sydney, oui.
Ton pire combat ?
Mon pire combat ?
Mauvais comme un cochon.
Mauvais comme un cochon. On m'avait forcé de participer à un championnat d'Europe. J'étais pas prêt, j'étais encore sous l'accident, etc. Enfin, non, c'était vraiment un championnat de merde, pardon.
Le plus beau dojo du monde.
Le Kodokan. C'est pas le plus beau physiquement, parce que c'est dans un immeuble qui est complètement... c'est pas joli. Mais il y a la chaise de Jigoro Kano, celui qui a créé le judo. Et puis c'est le Kodokan, quoi. C'est la mecque du judo.
C'est où ? Au Japon,
j'ai pas vu. À Tokyo, oui, pardon.
Le judoka le plus insupportable ?
Oh, ça devait être moi.
Puisque...
J'aurais pas aimé être mon entraîneur, voilà. Franchement.
Ok, je te l'accorde pour celle-ci, mais pour celle qui vient après, je te l'accorderai pas. Le politique le plus insupportable ?
Ça peut être là. Ça peut être là, politique.
Ok.
Mais je donnerai pas son nom. Insupportable. J'ai vu... Si vous saviez ce que j'ai vu. J'ai vu... des personnes dire pique-pende du président et du gouvernement en place et faire se rouler par terre pour rentrer au gouvernement. Voilà. C'est insupportable, cette hypocrisie, cette ambition mal placée, ce manque de colonne vertébrale. Voilà. Alors, c'est j'en ai vu que très peu, heureusement. Mais j'en ai vu, ça c'est sûr.
On embrasse Nadine Morano.
Non, je blague. C'est pas elle en plus. Non,
c'est vrai. Le sport où tu aurais adoré être une star ?
La boxe. J'adore la boxe. Je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est... d'abord, c'est le noblard. On l'appelle comme ça et c'est vraiment ça pour moi. C'est la quintessence du duel. Voilà. J'aurais aimé être un Mike Tyson.
Contre quoi tu échangerais tes médailles olympiques ?
En ce moment ?
Ouais.
Un vaccin. Avec ça qui marche.
Qui marche.
Qui marche, ouais. Avec ça dont on est sûr qu'il marche.
Ta pire cuite ?
Une de celles qui m'a écourté un stage lorsque j'étais junior. Et j'en suis pas fier. Voilà. C'était ma première en réalité. Ma première, la première, ça n'a pas été joyeux. Donc on m'a demandé de rentrer chez moi le lendemain. Voilà. Gentiment.
La dernière fois que tu as pleuré, David ?
Ah bah il n'y a pas longtemps, c'était tout à l'heure, hormis la fois où j'ai eu une larme pendant cette émission, en parlant de ma grand-mère tout à l'heure, ma femme a envoyé un texto tout à l'heure dans le train quand je suis venu, elle ne le sait pas, elle m'a dit qu'elle avait pleuré en recevant le mien, et moi j'ai pleuré aussi en recevant le sien, voilà, donc il y a quelques heures en fait.
L'interrogatoire va se poursuivre avec tes proches maintenant, une question de Cédric Dermé pour toi.
Ah. Salut David, donc je voulais savoir avec tout ce que tu as fait, tout ce qui t'est arrivé dans les années à venir, qu'est-ce que tu souhaites le plus pour toi ?
Pour moi, rien. J'ai envie de donner, de redonner, de transmettre, voilà. C'est ça que j'ai envie de faire. Quelles que soient les activités, en tant que père, en tant que judoka, en tant qu'amoureux de mon pays, en tant qu'amoureux du sport en général. Voilà. j'ai envie de transmettre un témoin. On nous a transmis un témoin, quels que soient les domaines. Il faut retransmettre ce témoin-là. C'est un devoir, je trouve.
Un message de Serge de Coster maintenant, ton patron au sport-études de Rennes.
Absolument.
Son message.
Serge.
Oui, David, ça me fait plaisir de m'adresser à toi. Et j'attends ta prochaine visite à Rennes, parce que ta dernière visite, je crois que ça remonte au 6e dan de Laurent Motin. Donc j'espère que tu ne vas pas attendre que j'ai un 8e dan ou je ne sais trop quoi pour revenir à Rennes. Allez, dépêche-toi, reviens.
Je vais revenir bientôt. Parce que mon fils joue au basket pas très loin. Et puis Serge de Coster, c'est un deuxième papa. Voilà. Et je travaille au quotidien avec un de ses deuxièmes fils qui s'appelle David Inken, qui est un de mes amis. On est associés ensemble dans la vie professionnelle. Et il est breton. Et donc ça va converger forcément au bercail de Rennes.
Sache qu'on a eu la même demande de Jacques Lemaître, mais évidemment, on ne va pas formuler toutes les demandes dans cette émission où tout le monde a envie que tu passes chez eux. Jean-Luc Rouget a une question pour toi.
David, si tu n'avais pas fait du judo, qu'est-ce que tu aurais fait ? Sport mécanique ? J'ai l'impression, non ? Allez, on se retrouvera sur un circuit si tu veux.
Il a probablement raison. Mais le problème, c'est que quand vous faites 130 kg et 1m96-17, pour entrer dans un baquet, c'est pas évident. Ou alors, il faut les faire sur mesure. Voilà. Mais j'adore tout ce qui vole, tout ce qui roule, tout ce qui... voilà. Et je fais des compétitions de quad avec des copains, c'est assez marrant. Ouais.
Un message maintenant du grand Jérémy, 29 ans, ton fils.
Je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, parce que ça m'a permis d'être l'homme que je suis également aujourd'hui. Et puis le fait que, comme je pense tout enfant, on a envie de passer beaucoup plus de temps avec lui, le voir plus souvent, discuter plus souvent. Mais ça, je lui dirai en face quand j'en aurai l'occasion, même s'il le sait déjà, je pense. Et que voilà, qu'il continue à s'éclater dans sa vie. Je sais qu'il regrette jamais ses choix et c'est là le plus important dans une vie. Voilà.
Il a raison, le JJ.
Vous êtes loin. Hein,
ouais.
En géographie.
En géographie, c'est embêtant, mais c'est de sa faute. Il fait un métier de fou, là. Il change de club tous les 10 minutes. Alors, je suis tellement heureux, mais vraiment, je suis vraiment heureux. Je sais tellement ce que c'est de faire quelque chose qu'on aime profondément. Il fait quelque chose qu'il aime profondément. Donc, pour moi, je suis heureux. Le savoir, peu importe si j'ai des enfants à 10 ou 15 000 km, pourvu que je sache qu'ils soient heureux, c'est tout ce qui m'importe. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas du tout, on ne se voit pas assez. Il va se marier l'année prochaine, on va aller chercher son costume, j'ai promis, je veux lui payer son costume, je veux qu'il l'essaye, je veux que, voilà. Alors les femmes, c'est la robe de leur fille, et
les papas, c'est le costume.
Ouais, alors c'est pas si évident que ça, mais moi je voulais que ce soit comme ça. Mais il fait 2m5, hein.
Ah, oui.
C'est pour ça que la difficulté...
on est bien bâti dans la famille.
Voilà, c'est pour ça que ça va être compliqué. On va se marier 5 minutes. Mais là, on va passer une journée ensemble dans peu de temps là pour faire ça. Et puis il va venir bientôt. D'ailleurs, s'il m'entend, il faut qu'il me donne ses horaires de vol parce que si je ne les connais pas encore là.
Une question maintenant de Jamel Bourras.
David, est-ce que comme moi, de temps en temps, ça te titille un petit peu et t'as envie de refaire un peu de baston, de compète ?
Mais tous les jours, Jamel. Tous les jours, c'est ma torture, c'est ma condamnation sur cette terre. C'est que quand on aime ça, quand on est un compétiteur, quand on est picousé comme nous, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense. Voilà. Puis tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un truc qui voilà, on veut toujours faire mieux. Mais tout est une compète. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas faire autrement. J'ai beau me soigner, hein. Même quand je joue aux cartes, je me suis même surpris avec mes enfants à être de mauvaise foi ou à être mauvais joueur parce que je perdais. Donc c'est complètement débile. Je me soigne. Mais c'est comme ça. Hein. Voilà, ça fait partie sans doute de mon ADN. Mais tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je rêverais de changer de corps. Je vois des films de science-fiction là où ils changent de corps pour aller corps tout neuf. Mais demain, je repars. À la seconde où on en parle, je repars tout de suite. Voilà.
Il faut dire qu'évidemment, avec toutes tes blessures, ton corps souffre aujourd'hui.
Ah bah oui. Ouais. Ah oui. Oui, je compatis pour celui qui pourrait le prendre, le mien. Franchement, c'est pas un cadeau. Mais voilà, c'est comme ça. On a tous envie de ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Quelle merveilleuse aventure que celle de donner le meilleur de soi-même. C'est fabuleux.
T'es bien accroché ?
Ah oui, pourquoi ?
Ouais. Un message de Myriam, maintenant.
Coucou papa, c'est ta grande fille, ta Mimi. J'espère que tu passes un bon moment. Je ne sais pas si tu as déjà les petites larmes aux yeux ou pas, mais en tout cas, moi je les ai. Je voulais vraiment te dire à quel point je suis fière de toi et je t'aime beaucoup. Je vais essayer de parler. En fait, je viens de passer quelques minutes à être questionnée sur ta vie et sur tout ce qui s'est passé. Et je voulais vraiment te dire que je t'aime. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, que tu saches que tu as une fille qui t'aime beaucoup et qui voit l'avenir, un bel avenir pour toi encore, de belles années encore pour toi. Tu as déjà fait tant de choses. Et tu n'as même pas encore 60 ans. Tu as tellement fait de grandes choses et de belles choses. Mais je sais qu'il y a encore de plus belles choses à venir. Et voilà, je voulais te dire à quel point je t'aime, que je suis là et que je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je t'embrasse très très fort et on se dit à bientôt.
Ah ben voilà, c'est la plus belle des récompenses qu'un père puisse avoir. La plus belle, l'amour de ses enfants. Il n'y a aucune médaille olympique, aucun titre qui peut... arrivé à la cheville de ce que je viens d'entendre.
Ça fait deux fois que je pleure en écoutant Myriam. Hier en écoutant le son et aujourd'hui en le réécoutant. Vanessa, t'as compagné un message.
J'aimerais lui dire merci. Merci David d'être rentré dans ma vie. Merci d'être un super papa, un super mari. Et merci d'être toi et de nous apporter autant de bonheur. Et j'oublierai jamais ce que tu m'as dit un jour, où tu m'as dit le plus important dans la vie, c'est ce que les gens retiennent de nous et le bonheur qu'on a pu leur apporter.
Moi, elle m'en apporte tous les jours, donc je suis plutôt gâté. je suis vraiment gâté. Mais c'est ça, en fait, elle a mille fois raison. C'est le plus important, c'est ça. Le reste, le matériel, etc., ça n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est qu'un jour, quelqu'un puisse dire, tiens, ce type-là, ou cette personne-là, cette femme-là, ce personnage-là, c'était quelqu'un de bien. Voilà, le reste.
Il nous manque quelqu'un dans cette boîte à souvenirs, quand même.
Blanche ?
Pas Blanche, oui, évidemment. Elle a 4 ans, elle a voulu te laisser... elle a voulu te laisser un petit message.
Bonjour, c'est Blanche. Moi, j'ai envie que tu viennes à la maison. Comme ça, je te fais un gros câlin. Et pour, j'aime bien te faire des surprises à chaque jour. À demain. Je t'aime.
Ah voilà, c'est dur quand un père avec ses filles. Hein. Entre Myriam et Blanche, c'est pas simple. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous m'en faites voir dans cette boîte à questions, là. Elle est incroyable parce que ça, elle le dit vraiment. C'est pas sa mère qui lui a soufflé. Elle me le dit tout le temps, en fait. Donc elle me fait la gueule quand je m'en vais, parce que je pars assez régulièrement de la maison. Elle me fait la gueule quand je rentre aussi. C'est comme ça que je mesure qu'elle m'aime toujours. En fait, non, mais ça dure une heure ou deux, puis ça se passe. Mais elle apporte tellement à tout le monde. Elle m'apporte à moi, évidemment, mais elle apporte à mes propres enfants. Évidemment, à mon épouse, mais c'est devenu, en étant la petite dernière comme ça... À l'âge que j'ai et l'âge de mes enfants, c'est une espèce de ciment extrêmement puissant qu'il y a entre nous. Et même si elle n'a que 4 ans, aujourd'hui dans la famille, elle a la place centrale. C'est étonnant.
Merci beaucoup, David.
Merci à vous.
Pour
vous m'avez fait un beau cadeau.
Souvenir.
Vous m'avez fait un très beau cadeau. Merci.
Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur. Merci beaucoup, Pierre. Ça a été encore un bonheur de travailler avec toi sur cette boîte à souvenirs. Notre réalisatrice, Julie Dereau. Et puis notre journaliste, Arthur Perrault, qui nous a dégoté aussi pas mal de contacts. David, tu as débuté cette émission. Tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi. Face aux auditeurs, un petit mot.
Bah, j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé avec cette vie qui a été remplie, qui n'est pas terminée. Simplement, en vous disant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir assouvi mes rêves d'enfant. Mais mes rêves d'enfant, c'était pas simplement les médailles. Je voulais avoir une famille, une grande famille, très jeune. Et j'ai cette chance absolue qui me permet aujourd'hui d'être un papa comblé. Et puis d'avoir peut-être bientôt des petits-enfants et en tout cas des enfants qui sont extraordinaires et qui, j'espère, vont continuer à bonifier nos vies et notre avenir. Voilà, c'est tellement important de d'avoir ce fil conducteur. Ça a été le mien. Et ce fil conducteur-là, pour le coup, lorsqu'on essaye de conduire sa famille et de donner, de retransmettre quelque chose à ses proches, bah, il n'est pas si mal, parce que si tout le monde le fait, je pense qu'on s'en sortira bien, quoi, tous.